Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bénéficiant d'une image naturelle et saine, les thés et les infusions sont prisés par les Français de tous les âges. Pourtant, certains sachets de thé et de tisane contiendraient des résidus de pesticides et même des corps étrangers. Alors comment faire le tri et ne faire infuser que le bénéfique pour la santé? C'est l'enquête de la semaine. Manger light, sauter un repas, faire du sport intensément, ne manger que du bio sont autant d'idées reçues et de clichés sur la perte de poids. Au lendemain de la journée mondiale de lutte contre l'obésité, quels sont les principales erreurs alimentaires que nous commettons en croyant bien faire? C'est la question de la semaine. Pouvoir se régaler avec des recettes gourmandes sans grossir? Eh bien, c'est possible. Il suffit de revisiter en version légère des plats réconfortants grâce à des astuces faciles. Alors, comment préparer un hamburger basse calorie, des bolognaises allégées et une pizza light? Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel bonheur de vous retrouver en ce samedi matin pour un nouveau numéro de Nous voilà bien sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour vous aider à devenir des consommateurs avertis et faire les bons choix dans votre assiette. C'est parti. Bonjour Patricia Chiropoulos.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs dont le numéro de mars est en kiosque et Caprange. Il y aurait des résidus indésirables dans les sachets de thé et de tisane?
Mais oui, je suis désolée pour cette mauvaise nouvelle, mais notamment des résidus de pesticides comme les néonicotinoïdes, hein, dont on a peut-être entendu parler, et puis également du glyphosate et des résidus des fragments d'insectes par exemple.
Non mais moi, ce qui me fait encore plus peur, c'est que vous auriez retrouvé aussi des corps étrangers comme des insectes et des poils de rongeurs?
Oui, alors aussi parce que nous avons aussi étudié donc des infusions verveine à base de menthe et des infusions détox, et c'est plutôt dans celles-ci qu'on a trouvé des fragments. Alors, c'est pas toujours des insectes entiers, hein, mais des fragments d'insectes. Bon, oui, non, mais c'est pas très ragoûtant, je suis bien d'accord.
Ça concerne beaucoup de marques?
Alors, quelques-unes, oui, je dois dire, et pas forcément des moindres, parce que, en gros, c'est parce que les tisanes, souvent, sont récoltées de façon ou à l'état sauvage, ou, et puis ce sont souvent des tisanes bio, donc pas d'insecticides, pas de substances qui vont repousser des animaux, mais alors, du coup, la contrepartie, c'est qu'on peut retrouver des fragments d'insectes.
Ouais. Bon, alors, attendez, au moment où je vous parle, je suis en train de prendre ma tisane bio, hein, habituelle. On peut avoir des marques ou pas?
Bon, bah, écoutez, par exemple, on a éléphant. Là, c'est donc l'infusion à base de verveine. Qu'est-ce qu'il y a? Les deux marmottes qui par ailleurs sont très bien, mais il y a dans certaines en tout cas quelques fragments aussi d'insectes, voilà.
Et vous disiez que le bio en fait favorise quelque part aussi justement ces corps étrangers.
Autant les bio sont très bien parce qu'il n'y a pas de pesticides, mais justement bah, comme il n'y a pas de répulsifs, du coup les insectes vont davantage proliférer. On peut aussi se dire, comme ça l'état souvent sauvage, hein, c'est cueilli, bah, il peut y avoir peut-être plus d'animaux qui vont traverser les cultures ou les champs.
Donc soit pesticides, soit animaux, quoi. Grosso modo, il y a toujours des résidus, si je vous écoute.
Voilà, c'est un peu ça. Mais il y en a qui sont moins dangereux pour la santé que d'autres. Les pesticides, par contre, c'est vraiment pas recommandable. Hein.
C'est vrai, vous avez raison. Mais le thé, il n'est pas lavé avant d'être mis en sachet?
Non, pas du tout. Que ça soit le thé vert ou le thé noir, ce n'est pas lavé. C'est pas du tout. Les feuilles vont sécher, surtout pour le thé noir, vont fermenter. Mais il n'y a aucun lavage, ce qui peut justement expliquer la présence de résidus de pesticides et en plus des pesticides non autorisés en Europe.
Et puis j'imagine que ça dépend aussi du stockage. Vous parlez de pesticides non autorisés en Europe parce qu'effectivement les thés viennent de loin.
Ben oui, évidemment, il y a quelques cultures locales, hein, mais sinon, évidemment, c'est principalement la Chine et l'Inde, et dans une moindre mesure le Kenya. Mais on sait que dans ces pays, peut-être que les contrôles sont un peu moins rigoureux.
Est-ce que l'on retrouve aussi des métaux lourds ou des molécules potentiellement cancérigènes dans les sachets de thé?
Alors, bon, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a quasiment pas de traces de métaux lourds, un peu de mercure, mais franchement, ça va. Comparé aux pesticides, ça va. En revanche, effectivement, on a aussi retrouvé des alcaloïdes. Alors, et notamment dans les thés verts.
C'est quoi ça?
Alors, ce que c'est que les alcaloïdes, en fait, ce sont des substances naturelles qui sont produites par les mauvaises herbes pour se défendre.
Okay.
Ce qui veut dire que quand on en trouve dans le thé, c'est qu'il a été pas très bien trié. Donc, du coup, ces alcaloïdes se retrouvent dans les feuilles de thé. Bon, alors là encore, ce sont dans des quantités qui ne sont pas énormes. Hein. Mmh. Mais c'est vrai que si on en boit beaucoup, c'est toujours le problème. Si on boit plusieurs tasses de thé par jour pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ça peut être ennuyeux parce que ce sont des substances cancérogènes quand même. Hein.
D'accord, bah vous avez en face de vous quand même une grande consommatrice de thé donc, et de tisane. Je passe mon temps avec, avec un mug et une tisane. Donc effectivement, je vais y réfléchir. Elles sont bio, hein, mais je me rends compte que le label bio, en fait, s'il garantit l'absence de contaminants, de pesticides, ne garantit pas non plus complètement l'absence de corps étrangers. Hein. C'est bien ce que vous nous dites.
Non. Voilà, mais par contre, juste les bio, là, c'est vraiment flagrant. C'est dans notre essai. Les thés conventionnels, donc non bio, sont vraiment, il y a beaucoup de pesticides, hein, alors que les bio n'en ont aucun.
Je comprends. L'origine géographique des thés, vous nous en avez un petit peu parlé, mais ça a vraiment une importance. Est-ce qu'il y a des zones où les thés partent le plus contaminés?
Alors, c'est très compliqué à savoir parce que l'origine n'est pas obligatoire sur l'emballage. Ça peut paraître curieux, mais comme c'est emballé, on a très, très peu d'origine. Donc, je ne peux pas vous dire, il y en a un qui est très contaminé, un qui vient d'Inde et l'autre qui vient de Chine. Mais voilà, ce n'est pas assez représentatif. Et c'est vrai qu'on l'a d'ailleurs, on le demande, c'est qu'il y ait plus de clarté, de transparence sur l'origine des thés.
Bah, c'est ça. Il n'y a pas un label, en fait, sur l'origine obligatoire. On ne pourrait pas avoir un label français, même garantissant des thés propres. Ça n'existe pas, ça?
Déjà, il faut se méfier parce que si vous voyez France sur un paquet de thé, c'est louche au sens que le thé ne peut pas venir de France pour l'instant. À la limite, c'est les ingrédients qui ont été ajoutés ou l'assemblage. Non, une trentaine d'essais de plantation. Donc peut-être qu'un jour, et là, il y a un label thé français qui est lancé justement cette année. Donc peut-être dans quelques années, on pourra trouver dans les magasins du thé français.
Mais vous parlez d'essais, c'est-à-dire qu'en fait, ça tient à quoi? Ça tient à la météo, aux conditions climatiques.
Oui, effectivement, le théier va pousser dans un climat chaud et humide. Mais en France, c'est surtout l'écart de température et l'humidité qui compte. Donc, en Bretagne, ça marche, ça peut marcher.
Ah, un thé breton, ça, ce serait génial. J'adorerais. Vous restez avec nous. J'ai encore des questions à vous poser, Patricia Chiron-Poulos, sur l'enquête que vous avez menée. On se retrouve dans un instant. Et puis après, vous connaissez le programme. Hein, Solveig Darrigaud-Artinet viendra nous parler des erreurs alimentaires à ne pas commettre. Et puis, on cuisinera gourmand mais léger avec Fanny Commandini. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Quelles sont les erreurs alimentaires à ne pas commettre? Parce que parfois on croit bien faire et on prend du poids bêtement. C'est Solveig Darrigaud-Artinet qui répondra à notre question dans un instant. On parlera aussi de cuisine gourmande, on se fait plaisir, mais légère et bonne pour la santé avec Fanny Commandini. Mais pour l'heure, on apprend plein de choses sur le thé avec Patricia Chiron-Poulos. Et on apprend, Patricia, qu'il y a des résidus indésirables dans quasiment tous les sachets de thé. Lorsque c'est bio, on peut retrouver, des petites bestioles, des poils de rongeurs, parce que c'est lié à la façon, effectivement, dont ça a pu être ramassé, trié et stocké, mais ça reste bio. Et ça, c'est l'avantage, parce que on n'a pas les pesticides et autres insecticides, glyphosate et compagnie, que l'on retrouve dans des thés de marques conventionnelles, type quoi? Lipton, Twinning et compagnie. En fait, les leaders du marché ne sont pas forcément garantis, ne nous garantissent pas d'une immense qualité.
Non, je dirais même pas. Enfin, au contraire, hein, c'est vrai qu'en queue de tableau, Lipton, franchement, il contient dans plusieurs références des pesticides indésirables, par exemple. Hein. Twinning ne fait pas beaucoup mieux. Donc, c'est que les grandes marques ne sont pas du tout une garantie. C'est des énormes quantités et on peut penser que les contrôles ne sont pas toujours hyper rigoureux. Quoi.
D'accord. Les bons élèves, alors?
Ah oui, il y en a quand même. Alors, écoutez, je vous donne 2-3 marques. Hein. Il y a Clipper, Terra Ethica, par exemple. Mmh. L'huile de marmotte aussi dans une autre tisane. Donc, c'est vrai que là, ce sont quand même des très bons élèves, on va dire, parce qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de corps étrangers. Franchement, ça peut être très propre aussi. Hein.
Vous nous parlez du bio. Marques. Voilà, c'est ça, du bio et de marques plus confidentielles. Voilà. Le thé bio est-il plus cher que le thé que l'on peut retrouver dans des supermarchés
Forcément, c'est plus cher, hein, mais bon, parce que déjà, ce sont des quantités qui sont moins importantes, et notamment en Chine, eux, ils ne cultivent pas de bio pour eux-mêmes, hein, donc c'est pour l'exportation, donc c'est vrai que comme c'est moins de quantité, et puis un peu plus d'attention donnée à la culture... Mmh. Donc forcément, c'est plus cher.
Ouais. Écoutez, je vous remercie en tout cas, Patricia Chiron-Poulos, pour toutes ces informations. On a beaucoup appris grâce à vous et grâce à 60 millions de consommateurs donc, que l'on peut retrouver en kiosque et amis et partenaires de cette émission. À bientôt, Patricia. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Ouais, il va falloir se mettre au régime. Berk les régimes. Bonjour Solveig Darrigaud-Dartinet.
Bonjour Fanny.
Merci d'être avec nous, soyez la bienvenue. Vous êtes diététicienne et nutritionniste. C'est le lendemain de la journée mondiale de la lutte contre l'obésité. Donc on va parler avec vous justement. Eh bien voilà, des erreurs à ne pas commettre. La première étant de se mettre au régime, Solveig.
Mais oui, alors je voulais déjà rappeler quand même que l'obésité, ça correspond à une masse grasse, un excès de masse grasse qui est dangereuse pour la santé et qui va réduire l'espérance de vie. Donc on va quand même différencier les petits kilos, 3-4 kilos supplémentaires de l'obésité, hein, c'est quand même deux choses assez distinctes. Et c'est vrai que les causes sont complexes et multiples, hein. Il y a la génétique, il y a l'alimentation, il y a l'environnement. Donc ben, dès que possible, on essaye d'être vigilant pour prévenir tous ces risques.
Mais les hommes et les femmes, ils sont égaux face à la prise de poids ?
Et non, je suis désolée de le dire.
Ouais, mais c'est pour notre pomme, ça.
Eh ben non, physiologiquement, on a déjà 10% les femmes de masse grasse supplémentaire qui sont prévues pour la procréation.
Mais c'est ça, donc, pour la maternité.
Voilà, pour avoir des bébés et avoir suffisamment de réserves pour mener à bien ces grossesses. Voilà. Et puis c'est vrai que les femmes se mettent aussi plus vite au régime. Elles sont plus dans la surveillance très tôt. Des hommes, c'est un peu plus tard. Ils attendent d'avoir un peu de bedaine.
Oui, et puis ça ne se traduit pas de la même façon sur le corps. Hein,
complètement.
Évidemment. Et on peut lutter quand même. Alors, on parle effectivement de lutter contre l'obésité, mais on peut lutter aussi contre le regard et les injonctions à la minceur et à l'extrême minceur dans la société d'aujourd'hui. Tous les corps sont beaux, même s'ils sont différents. Néanmoins, c'est vrai que parfois, on commet des erreurs en pensant tout simplement bien faire. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de régime du tout ce matin parce qu'on est contre les régimes, oui. Mais on peut aussi parler de rééquilibrage alimentaire, je dirais, pour tout simplement se sentir bien dans son corps. Je vais vous poser des questions toutes simples et je vais vous demander d'y répondre parce que je pense que ça fait partie des erreurs qu'on peut commettre. Est-ce que sauter le petit déjeuner ou ne prendre qu'un café, c'est une bonne astuce pour ne pas prendre trop de poids ?
Alors, pas forcément. Donc, sauter un repas, alors que ce soit le petit déjeuner, alors des fois c'est le déjeuner, des fois chacun y va un peu de son organisation, mais non, ça va correspondre à certains profils. Hein. Il y a des personnes qui ne prennent jamais de petit déjeuner et puis ça leur convient. Donc là, je dirais qu'il ne faut pas se forcer non plus. Quand on veut perdre du poids et qu'on s'oblige à sauter un repas, c'est pas forcément la stratégie gagnante à moyen terme, parce que des fois on compense à un autre moment de la journée, donc on se dit vu que j'ai rien mangé, allez hop, j'y vais gaiement à l'autre repas. Donc faut rester quand même à l'écoute de son corps, et puis si on n'y arrive pas, qu'on peut avoir peut-être des troubles du comportement, qu'on sait plus bien gérer, là vaut mieux se faire accompagner pour trouver peut-être le bon rythme alimentaire, celui qui va nous correspondre et qu'on a peut-être pas encore trouvé. Donc des fois, ça nécessite un petit accompagnement.
Moi, je déjeune léger, en général, sur le pouce, devant mon ordi, en travaillant. Alors ça, vous allez me dire que c'est une connerie.
Il faut faire attention à tout ce qui est perturbateur. Alors les perturbateurs, c'est l'écran, c'est une télé, c'est quelqu'un, des fois, qui vous envahit par sa conversation, puis du coup, vous n'êtes plus du tout concentré sur ce que vous faites. Donc, on prône la pleine conscience, c'est-à-dire manger en étant concentré sur ce qu'on fait. Et c'est la meilleure façon aussi de se rendre compte qu'on est en train de manger et puis du coup qu'on assimile quelque chose. Parce que si on n'est pas concentré, à un moment donné, on va se dire « je m'en suis même pas rendu compte ». C'est un peu comme quand on conduit, on est un petit peu dans un état où finalement on ne s'est même pas rendu compte tellement on a l'habitude. Et puis après, c'est un peu trop tard et c'est là qu'on se met à grignoter ou manger des petites choses en plus.
Voilà, justement, parce que quand on grignote des fruits secs et des petits encas à base de graines, on nous dit « allez-y, prenez sa petite barre de céréales et compagnie », c'est une bonne ou une mauvaise idée, ça ?
Alors, il faut distinguer justement le grignotage, qui est quelque chose d'un petit peu anarchique, du goûter ou de la collation, qui est plutôt organisé. Quand vous me dites « tiens, j'ai mes petites graines », etc., c'est que déjà, vous avez pensé à prendre quelque chose qui vous semble plus sain, plus correct. Donc, c'est vrai que ça peut être ne serait-ce qu'un fruit, un fruit frais qu'on mâche, une pomme, des clémentines en ce moment, ou quelque chose dans ce style-là. Et puis, au contraire, des noix, des amandes, etc., c'est riche en fibres, c'est riche en magnésium, donc en minéraux qui font souvent défaut dans notre alimentation. Donc je dirais que là, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Et en plus, ça nous fait sécréter de la sérotonine qui nous calme, un peu un anti-stress naturel pour la fin de journée. Donc je dirais que c'est plutôt une bonne stratégie. Mais encore une fois, qui va correspondre à certaines personnes et pas à d'autres. Hein. D'autres n'y pensent pas du tout. Hein.
Bon, dans un instant, on se retrouve et on va parler de ce qu'on a dans l'assiette. A tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Nous voilà bien sur RTL.
Avec Flavie Flamand.
Dans un instant, on va vous donner des recettes pour cuisiner gourmand, mais léger, pas mauvais pour la santé, pas du gras, du beurk. Et on se retrouve tout de suite avec Solveig Darrigaud-Dartinet, justement, pour parler des erreurs alimentaires à ne pas commettre si l'on ne veut pas prendre trop de poids. Justement, avant les recettes de Fanny Commandini, Solveig Darrigaud-Dartinet, vous êtes avec nous, vous êtes diététicienne et nutritionniste. Et d'ailleurs, je conseille deux ouvrages. Calendrier fruits et légumes de saison 2022. Ça, c'est super parce que c'est vrai que c'est important de consommer les produits de saison.
C'est
génial. C'est moins cher, hein, il faut quand même le dire. Et puis c'est vrai que c'est plutôt pratique. Et puis, un potager.
Il y a plein de recettes. Voilà.
Et un potager pour nourrir ma famille, c'est chez Rustica Édition. C'est vrai que la terre nous offre beaucoup, justement, pour nous régaler.
Et on y revient de plus en plus.
C'est vrai, et c'est important. Est-ce que bannir, ou du moins en tout cas limiter les graisses dans son régime, c'est une bonne chose pour garder la ligne ou pour la retrouver ?
Alors, il y a des modes sans gras, il y a les modes avec beaucoup de gras, les modes sans féculents, etc. Alors, le problème de limiter les graisses, c'est que quand les gens ils se disent « je vais faire attention, je vais manger moins gras », ils suppriment justement les graisses qu'il faut pas supprimer, c'est-à-dire notamment la vinaigrette, les huiles, qui sont riches en acides gras essentiels, qui sont bons, donc oméga 6, oméga 3, qui sont bons pour notre santé, et il y a que l'alimentation qui peut nous les apporter. Donc, je dirais que la stratégie de pas de vinaigrette, c'est pas la bonne stratégie. Donc, on continue les crudités. On continue ce ça type de graisse. En revanche, on fait attention un peu plus aux graisses qui sont cachées, leur nom l'indique, qu'on ne voit pas forcément et qui vont être justement dans les fromages, dans les charcuteries, dans des plats cuisinés pas forcément de bonne qualité, crème, etc. Donc c'est là qu'il faut être judicieux un petit peu.
Oui, évidemment. Bannir le pain et les féculents, c'est une bonne idée ou pas ?
C'est pareil, si on a bon appétit et qu'on supprime la source principale d'énergie sous forme de glucides, alors bien sûr, on essaye plutôt d'être sur des féculents complets, pain complet, et on diversifie les féculents, pâtes, riz, pommes de terre, quinoa, etc. Mais si vous les supprimez, le risque, c'est d'avoir plus faim, donc de se venger à un moment donné sur autre chose. La bonne idée, c'est surtout de les associer dans un plat, déjà parce que c'est plus sympathique, avec un petit peu de viande, un petit peu de poisson et des légumes. Donc, dès qu'on a une assiette un peu plus diversifiée, c'est un plat complet, c'est plus attrayant, c'est plus coloré en plus. Donc, on a tout intérêt à justement pas forcément supprimer une catégorie d'aliments en pensant que c'est le mauvais bougre.
Est-ce qu'on peut grossir, justement, à propos d'aliments uniques, je dirais, en se gavant uniquement de salades ou en ne mangeant que des soupes ?
Alors la soupe, c'est bien en entrée, mais il faut qu'il y ait quelque chose après. Attention, parce que ça reste liquide. C'est un peu comme les jus de fruits, les smoothies, toutes ces boissons qui ont le vent en poupe. C'est liquide, donc ça cale pas longtemps. Ça cale sur le moment, mais ça cale pas longtemps. Donc la salade, ou en tout cas les légumes, même cuits, c'est plutôt intéressant parce qu'on va mâcher. Et du coup, plus on mâche, plus on profite des fibres qui ne sont plus dans un jus ou dans la soupe qui sont moulinées. Donc, c'est vrai que ça va apporter peu de calories et en plus, ça va rassasier. Maintenant, c'est pas que ça, que la salade. Encore une fois, on diversifie pour avoir une assiette un peu plus complète.
Et puis, j'imagine que si je fais salade vinaigrette, mais midi et soir, il y a un moment où là, pour le coup, je vais être dans une surdose d'huile, non ?
Oui, alors la bonne quantité, pour vous donner une idée, pour les hommes, c'est 3 cuillères à soupe d'huile dans la journée et pour les femmes, c'est 2. Alors, c'est vrai que si on mange pas de crudité, ça peut devenir héroïque d'en consommer 2 cuillères à soupe, mais sinon, si effectivement on a en entrée le midi et le soir ou en accompagnement, pourquoi pas, avec une quiche ou quelque chose comme ça, une petite salade, là, effectivement, on reste sur des doses qui sont modérées. Faut pas descendre, effectivement, le shaker.
Justement au liquide. Buvez, éliminez. Mais boire trop d'eau, ça fait vraiment maigrir ?
On dit buvez. Non, alors quand on dit buvez, éliminez, on élimine les déchets que l'organisme produit naturellement. Hein. C'est ce qui fait qu'on a, je suis désolée d'en parler, mais des urines qui sont limpides. Ça veut dire que tout est bien drainé, tout fonctionne bien. Quand les urines sont plus foncées, c'est qu'on a un peu plus de déchets dans l'organisme. Non, au mieux, l'eau, elle va en plus apporter du liquide, des minéraux. Hein. Plus une eau est riche en minéraux, elle peut être intéressante parce qu'elle a du magnésium, du calcium et des petites choses complémentaires qui peuvent être utiles. Mais en aucun certains cas, malheureusement, elle ne fait maigrir. Hein, je suis désolée.
Bon, et bien évidemment, on fait de l'activité physique, à défaut de faire du sport. Hein, on peut déjà faire de l'activité physique.
Ouais.
Voilà, c'est ça, c'est bouger, c'est monter les marches.
Et lutter contre la sédentarité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens ne bougent plus assez. D'autant plus que là, il y a eu le télétravail, on est plus chez soi, etc. Donc, si on marche plus, si on est trop souvent devant l'écran, qu'on ne se lève plus suffisamment pour une raison X ou Y, donc il faut essayer d'être actif dans sa vie, monter les marches, se déplacer à pied plutôt que même trottinette électrique, etc. Et puis on diversifie. Quand on fait du sport, on essaye de diversifier, pas se faire que du cardio, par exemple, que de la marche ou que de la musculation. On essaye d'équilibrer les deux types d'activités pour que le corps il soit à la fois bien au niveau cardiovasculaire, mais également bien au niveau musculaire.
Merci beaucoup Solveig Darrigaud-Dartinet et je conseille votre site www.cuisine3s comme simple, saine et savoureuse.fr. Merci et à très bientôt.
Merci Flavie, au revoir.
J'ai perdu 25 kilos, oui madame, et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, tu ressembles à Françoise Hardy.
Que tu es beau,
Enrico Macias, Enrico. J'ai perdu 25 kilos. Bon, c'est pas l'objectif hein, de cette émission, mais là, on va passer maintenant à nos recettes, je dirais, minceurs, ou en tout cas, comment se faire plaisir, cuisiner gourmand mais léger. Et ça, c'est grâce à Fanny Comandini. Bonjour Fanny.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL. Vous êtes vous aussi
Merci.
Diététicienne et vous êtes auteure de livres de recettes pour Croque Kilo. Croque Kilo, c'est un programme minceur en ligne qui appartient d'ailleurs au groupe M6 et à paraître le 20 avril, le quatrième tome des recettes minceurs et gourmandes du quotidien. Alors Fanny, vous avez entendu les conseils il y a un instant de Solveig Darrigaud-Dartinet. J'imagine que vous souscrivez à tout ce qu'elle nous a dit.
Complètement.
On peut manger gourmand et on peut manger léger aussi.
Oui, tout à fait. Ben, je rejoins tous les bons conseils qu'elle a pu prodiguer précédemment. Et c'est vrai qu'on peut allier le plaisir et la légèreté. C'est pas parce qu'on va se faire plaisir dans l'assiette qu'on va forcément prendre du poids. Et c'est pas à l'inverse, parce qu'on va avoir une assiette vide, qu'on va maigrir. Au contraire, on risque, comme elle l'avait dit pour les féculents, de créer une frustration, un manque et un moment de se venger. Alors moi, je rejoins aussi ce qu'elle a dit. Le principal pour se faire plaisir et faire attention, du coup en se faisant plaisir, mais maîtriser ce qu'on mange, c'est de cuisiner soi-même le plus possible. Alors c'est pas toujours possible dans la vie actuelle quand on travaille autre, mais le plus possible pour diminuer la consommation des produits industriels, des plats tout prêts qui vont être souvent caloriques, salés, avec de l'additif et qui sont en plus peu rassasiants, donc qui vont vite nous donner faim.
Tous vos conseils, c'est dans un instant, dans la suite de Nous voilà bien, Fanny. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
C'est le moment que vous attendez, c'est le moment des recettes et de la cuisine. Et c'est avec vous, Fanny Comandini, qu'on va prendre soin de nos papilles en ce samedi matin. Vous êtes diététicienne et puis vous êtes également auteure de livres de recettes pour Croque Kilo. Alors, comment se faire plaisir sans pour autant être dans la fast-food? Vous allez, dans un instant, justement, nous donner des recettes pour un hamburger light, une pizza pas trop calorique, les pâtes pas trop caloriques, parce que moi, j'adore les pâtes carbo ou bolo, mais bon, néanmoins, de temps en temps, je me dis, mollo, pas avant une émission. Déjà, j'adore le fromage, mais je ne sais pas quel est le plus léger. Est-ce que vous pouvez nous donner une indication?
Alors, il y a plusieurs fromages qui vont être, on va dire, moins caloriques que d'autres.
D'accord.
La cancoyote, qui est sur la première marche du podium. Après, on a tous les fromages frais, comme la ricotta, le Saint-Morel, le chèvre frais.
Ouais.
On a la mozza aussi, ça va intéresser du monde, qui est dans les fromages moins caloriques. Mais après, ça va être plutôt les fromages à pâte dure qui vont être plus caloriques.
Oui.
Par contre, attention quand même, c'est pas parce que c'est moins calorique qu'il faut se lâcher sur le fromage. Il faut quand même essayer de respecter une certaine portion journalière qui est d'environ 30 grammes, on va dire.
Ça fait quoi, ça, 30 grammes?
Bah, 30 grammes, c'est les petites parts individuelles de camembert. Vous voyez, c'est un huitième de camembert.
D'accord. Okay.
Ou alors, pour la boule de mozza, ça va être seulement un quart. Et donc, ça peut être là le piège de pas manger la boule entière en entrée, par exemple.
Tu m'étonnes. Bon, alors, comment je peux préparer un hamburger light? C'est possible, ça?
Oui, tout à fait. Ben, c'est ça. Souvent, les gens ils sont surpris de pouvoir se faire plaisir et de pouvoir manger justement un burger. Et en fait, en le faisant soi-même plutôt qu'en allant le manger au fast-food, il sera plus rassasiant, plus gros. Et on peut gérer un peu les calories en faisant son pain maison. Si on est motivé en allant jusque-là, on peut faire son pain soi-même. Après, si on achète le pain, il suffit de gérer ce qu'on va mettre dedans. Idéalement, un steak de volaille peut être moins calorique. Si on préfère vraiment le traditionnel avec du bœuf, dans ces cas-là, on prend un bœuf 5% de matière grasse. C'est toujours moins calorique que quand on ne fait pas attention, on prend 10-15%. Et ensuite, on va plutôt mettre plus de légumes que de fromage. Donc, on peut mettre des cornichons, des tomates, de la salade, des champignons, des oignons. Et on évite de mettre 4 couches de fromage. Un tout petit peu de fromage, ça suffit. Et c'est peut-être même pas nécessaire si on a assez de légumes. Et après, on peut mettre du ketchup. Ça va être ce qui va être moins calorique par rapport à une tonne de mayonnaise.
Et moi, mes carbonara, alors ? Qui sont mes pâtes favorites ?
Alors,
parce que
vous savez,
je suis normande, moi, il me faut de la crème, il me faut du fromage.
Ah là là. Bah, après, pourquoi pas une fois de temps en temps en espacant la carbonara remplie de crème. Mais sinon, si on veut trouver une version un peu plus légère, on peut remplacer tout ce qui va être lardon, poitrine, par des allumettes de jambon qui seront beaucoup moins caloriques. Le bacon aussi a peut-être plus de goût et moins calorique. Sinon, on choisit les allumettes de lardon, qui sont souvent aussi moins remplis de gras. Déjà, ça permet d'alléger un peu le côté calorique. Normalement, les vraies pâtes carbonara, c'est avec la cuisson des pâtes qu'on vient fouetter avec du jaune d'œuf. Donc ça, on peut garder cette base de recette et on met que ça en sauce et on limite une petite cuillère à café de parmesan dessus. Si on est vraiment comme vous, on a envie de mettre un peu de crème, dans ces cas-là, on a la main légère et on met une cuillère à soupe de crème par personne. C'est toujours pareil, une question de quantité.
Mais je pense à tous les Italiens qui m'écoutent et qui se disent « Mais on ne met pas de la crème, Flavie, les carbos !» Pardon, j'ai revisité la carbo, j'en ai fait des pâtes normandes. Des desserts. Ah, les desserts. Est-ce qu'on est obligé de renoncer aux desserts ou est-ce qu'on peut quand même se régaler, Fanny ?
Il y a plein de desserts qui peuvent être possibles. En plus, il y a plein d'astuces dans les desserts, c'est ça qui est intéressant. On peut facilement remplacer ce qui va être très calorique et ce qui va avoir peu d'intérêt nutritionnel, comme le sucre, le beurre dans les desserts, par de la compote de pommes, des bananes bien mûres, et ça va permettre d'alléger, de manger des fruits. On peut même remplacer par de la courgette, c'est ça qui est intéressant. Alors, les brownies, par exemple, on a des recettes, on trouve facilement des recettes avec des légumes ou des fruits pour remplacer le beurre. On peut aussi, dans tout ce qui va être dessert plus crémeux ou cheesecake remplacé par du skyr. Le skyr est moins calorique. En plus, il apporte un peu plus de protéines. Donc, ça peut être aussi intéressant au niveau nutritionnel.
Et c'est bon, le skyr.
Et c'est bon, effectivement. Il ne faut pas en abuser non plus parce que du coup, c'est assez protéiné. Ça dépend le type d'alimentation qu'on va avoir. Mais de temps en temps aussi, on peut en consommer. Il n'y a pas de souci. Les versions allégées, elles vont être tout aussi bonne que les vraies versions. Le tiramisu allégé, on va le digérer plus facilement, on va moins culpabiliser et on va quand même se faire plaisir simplement parce qu'on va éviter de prendre la mascarpone, on va plutôt aller vers du fromage blanc.
Vous savez quoi ? J'aimerais bien que vous nous donniez une recette du moelleux au chocolat à base de courgettes avant de partir. Parce que là, quand
avec
vous me dites
plaisir.
On peut remplacer le beurre par de la courgette, je trouve ça hyper intéressant.
Oui, et alors ça en plus c'est très surprenant. Bien sûr, je le teste et je le teste sur les invités. Et je n'ai aucun retour de personnes qui ont découvert que le beurre avait été remplacé par de la courgette. Ouais. Il faut la hacher très finement, comme ça on ne retrouve pas du tout, à la cuisson elle va fondre et on ne retrouve pas du tout de bout de courgette. Donc pour un gâteau pour à peu près 8 personnes, on ne va être qu'à 240 calories par part, donc c'est très correct pour une collation. On va prendre une courgette, à peu près 80 grammes, on va la hacher, la mélanger avec 200 grammes de chocolat noir qu'on va faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes si on est pressé. Ensuite on va mélanger 3 œufs avec de la compote de pommes, 60 grammes de compote de pommes. Et là encore, c'est une astuce, la compote de pommes vient remplacer le sucre. Donc du coup, dans le gâteau, pas de beurre, pas de sucre, des légumes et des fruits. On ajoute donc ensuite le chocolat et la courgette au mélange des œufs et des compotes. On mélange le tout vivement. On rajoute ensuite 80 grammes de farine. On peut mettre de la farine semi-complète, justement, pour éviter les féculents, comme la farine blanche, les féculents blancs, comme disait tout à l'heure ma prédécesseur. Et on ajoute un demi-sachet de levure chimique, une pincée de sel. On cuit au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Et voilà.
Et voilà.
Et voilà, c'est tout simple, non, réellement ça va assez vite, on est même surpris soi-même d'avoir un gâteau aussi moelleux que si on l'avait fait avec du beurre et du sucre. Le résultat est impressionnant, je vous conseille de tester.
Merci beaucoup Fanny Commandini de nous avoir conseillé ce matin et de nous avoir montré qu'on pouvait être gourmand et manger sain. Je rappelle donc à venir le 20 avril le 4e tome de mes recettes minceurs et gourmandes du quotidien chez M6 Éditions. À bientôt Fanny, merci à vous.
Merci beaucoup Flavie.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Nous voilà bien, s'achève, mais vous pouvez réécouter l'émission sur l'appli RTL et sur tous les sites partenaires. Moi, je vous retrouve dès lundi à 20h pour Jour J, c'est le magazine qui s'intéresse aux grands événements qui ont jalonné notre histoire collective. Et puis, évidemment, la semaine prochaine, dès 9h15, pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end. Je vous embrasse.